Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 24 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux, réalisée lors du Festival International du Jeu de Cannes 2019. Je suis Astien et je suis accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Ah, salut Astien.
Et nous accueillons aujourd'hui Ilinx Edition avec Natacha Dehé. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Natacha.
Donc avant de commencer notre petite interview, Natacha, on va te poser quelques questions. L'idée c'est d'y répondre de façon courte et succincte. Donc pour toi Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
Jeu.
C'est plutôt bière ou champagne ?
Bière.
C'est plutôt camping ou martinez ?
Ni l'un ni l'autre. C'est
colocation.
Colocation.
À choisir, je serais plutôt camping.
Ah ouais. Ok.
C'est plutôt off ou dodo?
Off.
Il faut y aller. Hein.
Ça a souvent un rapport avec la bière, j'ai l'impression. Hein,
ouais.
Depuis le début
ouais,
du festival.
Ouais, on fera une étude de statistique de corrélation entre off et bière pour voir.
Est-ce que t'es plutôt salon ou festival?
Festival. Ouais.
Et est-ce que c'est plutôt pro ou perso?
Ou pour toi, ça t'évoque plus quelque chose de perso ou plutôt quelque chose de pro?
Tu
peux l'interpréter un peu comme tu veux.
Alors, je suis désolée. Pour le coup, les deux.
Ouais.
Ouais. Les deux, c'est... Je... Voilà. Les
ouais,
deux.
Ça te fait plaisir de venir aussi ouais, pour pouvoir ouais, jouer, ouais, ouais. etc.
Et puis...
T'en profites un peu?
Ouais. Non. Ça, j'ai pas du tout le temps de jouer. Mais...
voir les gens.
Mais observer les gens jouer, voir les tendances, le public, mm-hmm. Enfin, ouais, non. Humainement, je suis évidemment là pour mon travail, hein, ça c'est sûr, mais, ouais. Mais j'y prends aussi un grand plaisir humain, voilà,
d'accord.
Personnel.
Très bien.
Du coup, Natacha, tu peux nous parler un peu d'Ilinx Edition et de toi ?
Donc, Ilinx Edition, c'est une maison d'édition de livres qui sont dédiés aux jeux, dont la ligne éditoriale est vraiment axée sur le jeu de société. Enfin, pas que sur le jeu de société, d'ailleurs, sur le jeu dans sa globalité.
Ouais.
C'est vrai que pour l'instant, nos ouvrages sont essentiellement centrés sur le jeu de société parce que, de par les fondateurs, on venait plus de là, mais dans le projet d'Ilinx, on veut vraiment, parler du jeu sous toutes ses formes, et l'une des raisons qui nous a motivés, c'est que c'est vraiment un sujet qui peut se prendre sous plein de facettes en fait, qui
ouais.
est à la fois, qui peut avoir à la fois un aspect esthétique comme on a pu faire avec l'artbook de Pierrot, mais mm-hmm. aussi au niveau des essais ou de la réflexion, il y a plein d'axes, voilà, c'est il y a une
plein
richesse du sujet.
Ah bah t'es pas, tu tombes ici chez des gens convaincus. Hein. Tu sais, chez nous, Proxy Jeux, c'est des podcasts avec des formats très très différents les uns des autres. Et on est totalement convaincus que le milieu du jeu, c'est quelque chose d'ultra riche. Et dire juste le jeu, c'est le jeu avec des mécaniques, c'est hyper réducteur.
Bah voilà, c'était notre constat de départ, c'est que c'est un sujet très très riche et qu'en fait, il y a très peu d'écrits dessus. Mmh. Et voilà.
D'accord.
Et donc je suis l'une des fondatrices d'Ilinx Edition.
Ouais. Donc vous avez fondé ça à deux, j'ai pas de bêtises.
On a fondé ça à trois.
Trois, pardon.
Ouais, on est une SCOP, on est une société coopérative.
Okay.
Donc il faut être trois minimum,
d'accord.
Dont deux salariés. Donc on était deux salariés, Adèle Percher et moi, on était salariés associés. Donc Adèle a quitté l'aventure il y a plus d'un an maintenant.
Ah ouais. Mm-hmm. Tu peux nous dire un peu pourquoi ou c'est
pour des raisons personnelles.
D'accord.
C'est ni une démotivation pour le projet ni un clash en interne du tout.
C'est important de le dire. Hein.
À la base, elle était localisée sur Bruxelles. Enfin, elle habite sur Bruxelles
ouais,
et moi, je suis en région parisienne.
Mm-hmm. D'accord.
Et voilà, c'est pas forcément très facile de travailler
ensemble
à distance.
À distance,
comme ça, c'est
pas toujours évident.
Et du coup.
La troisième personne, pardon, du coup.
C'est Antoine Boza, pardon.
D'accord.
Ouais, on a eu le soutien d'Antoine Boza pour ce projet dès le début, qui nous a accompagnés.
D'accord.
Et quand Adèle est partie, ben il y a Laurent Escoffier qui a.
Oui, du coup, parce qu'il faut être trois.
Voilà, c'est
d'accord.
ça.
D'accord.
Qui a rejoint les associés.
Et du coup, tu dis qu'il faut deux salariés. Donc, du coup, ça veut dire que Laurent Escoffier est salarié de la structure.
Oui, un petit peu, oui. Oui,
on lui donne un centime par mois pour justifier qu'il est salarié. Non, mais du coup, comment tu fais
Non, ouais, il a un tout petit contrat effectivement. Mais du coup, c'est sur le côté maquette, comme on a pu voir là sur Facebook. C'est lui qui maquette les
tous les cartes color,
les captains, etc. Ouais. Voilà.
On va en parler effectivement. Donc effectivement là, cette idée, vous aviez été reçu à la radio des jeux,
un podcast
également. Donc,
pour ça, on fait référence au début.
Voilà. Au début de l'aventure, assez tôt. Vous aviez sorti peut-être l'artbook à ce moment-là quand même.
Je pense que la campagne participative était finie, mais que l'artbook n'était pas encore sorti, il me semble.
Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu des ouvrages qui sont sortis déjà?
Donc voilà, on a démarré comme ça avec une campagne participative et l'artbook de Pierrot. Alors on l'a appelé artbook, mais en fait c'est plus qu'un artbook. C'est un ouvrage qui retrace 10 ans de la carrière de Pierrot, qui démarre par Mr Jack, qui est vraiment le premier jeu de société dans le.
On en a parlé avec Hurricane qu'on a reçu
et qui se finit sur Mr Jack 10 ans après. Donc ça c'était assez sympa. Il y a détaillé beaucoup d'anecdotes de création, des choses que les gens savent pas ou ne voient pas forcément quand ils peuvent jouer. Et surtout, il a voulu expliquer la spécificité de son métier, c'est-à-dire que illustrateur dans la BD ou illustrateur dans le jeu de société, c'est pas tout à fait pareil. Et voilà, il voulait pouvoir revendiquer son métier, et il a fait un bel ouvrage, donc on était assez fiers de l'accompagner sur ce projet-là. Comme c'était une campagne Kickstarter, il fallait on a cherché un peu d'autres formats. Du coup, il y a un tiret à part qui accompagne l'artbook, qui là en fait est plus un artbook parce que ce sont des illustrations pleines pages, exclusivement. On a fait aussi un livre de coloriage sur Pierrot. Ça, c'était notre idée. Nous, on avait très, très envie, que ce soit Adèle ou moi, on venait du milieu des ludothèques. On a beaucoup travaillé dans les ludothèques. Mm-hmm. Et pour nous, le jeu, c'est quelque chose qui nous accompagne toute la vie. Et il n'y a pas de distinction entre le jeu enfant ou le jeu adulte. C'est juste, en fait, un chemin. Donc on a eu une première série de livres qui était consacrée à Pierrot, donc l'artbook, le tiret à part et les cahiers de coloriage. Après, on a beaucoup de livres qui sont en développement, mais c'est vrai que parmi ceux qui sont sortis, il n'y en a pas beaucoup. Captain et Cap Color, donc l'axe qui est plus un livre-jeu à colorier créé par Laurent Escoffier et Charles Chevalier. Donc là, on est vraiment sur du coloriage tactique, presque.
En gros, on a des cases. On va parcourir une sorte de chemin avec les cases. On va faire des choix et colorier des cases de proche en proche.
Tout à fait. Donc, Cap Color, ça se joue de 2 à 4 joueurs. On est vraiment sur des sensations de jeu de société, mais sur du papier. Ouais. Et
c'est paru. Alors, Captain, moi, je me rappelle, c'était des feuillets livre taille quoi à 5, c'est ça à peu près, Captain?
Tout à fait.
Et Cap Color, c'est...
C'est à 4.
C'était à 4, mais du coup, ça c'est sorti aussi en même temps que Captain?
Non. On a d'abord sorti le Captain à Paris et Ludique il y a 2 ans.
2 ans, c'est ça.
Et il y a eu un engouement pour le jeu qui nous a beaucoup rassurés. En fait,
ça a attiré la curiosité des gens, clairement. C'est une nouveauté. C'est vrai qu'il y a une espèce de mode du coloriage qui est revenu. Le jeu de société, on sait que c'est un milieu qui se développe. On le dit largement, suffisamment souvent. Donc, du coup, il y a un espèce de mash-up. Puis, aujourd'hui, on voit tous ces roll and write, les jeux qui s'écrivent, tout ça. Enfin, tout ça, c'est dans la même veine. Hein. Donc finalement, vous êtes inscrit dans quelque chose, dans un courant. Je dirais que vous étiez en plein dedans, quoi.
Mais même un peu avant tout ça, hein, parce que c'était il y a 2 ans, les Roll and Ride sont vraiment arrivés en masse l'année dernière. Et vous étiez juste avant, et vous avez fait aussi, je trouve, une grosse partie communication. On pouvait avoir pas mal de jeux sur Facebook et autres réseaux sociaux en essayant de remplir les cases, en essayant de faire le plus de points. Enfin, il y avait beaucoup de choses, je trouve, autour de Captain qui a aussi fait que l'engouement était là, quoi.
Avec en plus une mode du jeu solo aussi qui revient depuis quelques années. Donc, du coup, tu disais un engouement, enfin quelque chose d'assez inattendu pour vous. Ouais. Vous n'étiez pas sûr de vous, non, numéro non. zéro no-
pour notamment un... sur le notamment sur le casse-tête en fait sur ouais. Sur le côté solo ouais. Parce que enfin ouais vraiment on n'était pas sûr et bah ça nous a encouragé donc on ouais. on a corrigé très très vite toutes les coquilles qu'on avait fait dans le zéro notamment on a développé une intelligence artificielle pour calculer les points
ouais.
Parce que sur le numéro zéro on l'avait fait à la main et voilà bah il y a des c'est erreurs il y a certaines îles on peut faire mieux et on avait aussi fait comme erreur des cap 15 où on demandait aux gens de trouver 15 cases. Et là, quand on a développé le générateur, même l'ordinateur, il a du mal, en fait. Il rame beaucoup pour trouver les 15 cases. Donc là, plus ça va, il y a Sébastien Pochon qui nous a rejoint dans l'aventure,
ouais.
qui est directeur de collection sur ses livres-jeux.
Mm-hmm.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec lui à simplifier tout ça et arriver maintenant on arrive à des cap 3, c'est-à-dire que sur 7 cases tu dois en trouver 3 et ben c'est quand même pas si évident que
ah
ça.
Ouais.
Ouais. Ouais, je sur d'accord, les cartes okay. postales par exemple, c'est des cap 3.
D'accord. Okay.
Et du coup, tu disais que Cap Color est sorti juste après. Donc à quelle période?
Quelques mois après, je dirais ici en fait ouais. Au Festival de Cannes l'année dernière.
Soit autour de décembre ou autour de février, si je me souviens bien, quelque chose comme ça.
Ouais, ouais. Peut-être en décembre, t'as raison, tout à fait en décembre. Ouais. Mais c'était le premier salon où on le présentait quand on est venu okay. ici. Ouais.
Et c'est quoi la différence
entre Donc la différence, c'est que là, c'est vraiment 2-4 joueurs et on ouais. est vraiment sur des sensations, ouais, ce que je disais, de jeux de société.
De jeu de société.
Et puis un petit peu méchant, un petit peu taquin, où on va s'embêter.
C'est un système de blocage, en fait, parce qu'une case peut être coloriée ouais. que par un seul joueur.
Complètement, ouais, ouais, c'est ça.
Finalement, ça revient à de la conquête de territoire.
C'est de la conquête de territoire et en même temps, c'est du blocage. Et à chaque fois qu'on va colorier une case, on ouvre le chemin pour les autres. Donc, c'est aussi, voilà, il y a un côté.
En revanche, moi, j'avais essayé un proto de ça,
mm-hmm.
mais qui n'était pas chez vous. Il était chez Story War French ou
Monster
Game, c'est un peu.
Bah en fait, c'est un peu l'originalité de ce jeu, c'est qu'il est chez deux éditeurs. Il a été signé par deux éditeurs au même moment, il y a 2 ans, à Paris Ludique.
D'accord.
Par Happy Baobab, enfin.
C'était Happy. Ah peut-être.
Ouais, Happy Baobab et Ilinx. Et du coup, Ilinx a les droits sur la francophonie.
Ouais.
Et okay. Happy Baobab a le droit sur le reste du monde et numérique.
Ok, d'accord. Voilà.
On a signé un contrat de licence avec Asmodée, qui est en train de développer un jeu de société qui est présenté à l'espace pro là-haut, qui s'appelle Combo Color. Et voilà, c'est lui qui va être distribué partout dans le monde. Donc il n'y a pas vraiment eu de.
Au final, du coup, c'est pas tout à fait le même jeu alors. C'est ça? Pour la France et pour le monde?
Si, si, ce sera le même jeu, si, mais fait par Asmodée.
Ouais, d'accord. Voilà.
Enfin, par Zygomatic, d'ailleurs, le studio de développement.
Oui, un studio de développement d'Asmodée, enfin, de Marc Nunes. Donc,
toute
cette gamme Cap quelque chose, quoi. Donc, Captain, vous continuez quand même, ou du coup, c'est que du Cap Color? Parce qu'il y avait un magazine 1, un magazine 0, pardon. Et il y a eu un magazine 1, il y a eu, c'est devenu comment? C'est devenu quoi?
On a été un petit peu, on n'a pas bien réalisé ce qu'on était en train de faire.
Ouais.
On a cru que une fois qu'on serait rodé, ce serait facile, qu'il nous suffisait de trouver le bon format et qu'après on n'aurait plus qu'à créer des îles. C'est pas totalement comme ça que ça s'est passé.
Mmh.
Dans le proto, bah, du coup, si t'avais vu le proto, dans le proto de Charles et de Laurent, il y avait beaucoup de mécaniques. Il y avait cette mécanique d'alignement qu'on a mis dans les deux premiers numéros avec les pyramides.
Ouais.
Il y avait des mécaniques de majorité qu'on intègre maintenant.
Mmh.
Et il y avait aussi des mécaniques de commerce qui vont venir, qu'on est en train de développer.
Mmh.
Donc voilà, chez Ilinx, on a fait un gros travail avec Charles, Laurent, Sébastien et puis Patrice Pain, parce qu'on est une petite équipe, à essayer de séparer les mécaniques. Donc on s'est dit qu'on allait faire un magazine par mécanique.
D'accord.
Donc les pyramides d'émeraude, c'était sur l'alignement. Là, il y a celui qui vient de sortir là pour ce canne là, qui est sur la mécanique des majorités et puis à venir.
D'accord.
Le commerce.
Vous avez vraiment bien séparé tout pour que ça fasse plus, parce qu'effectivement, ce que j'avais essayé, c'était un jeu qui faisait un peu salade de points, quoi.
C'est ça. On voulait que ce soit très digeste et c'est vrai que si on mettait toutes les mécaniques, soit on avait 2 pages de règles, qui, je pense, est contre-intuitif sur un jeu qui se fait en 15 minutes.
Ouais, et tu tiens sur une page, en fait, en
tout
plus.
Fait, oui. C'est ça, voilà. C'est ça.
Donc, du coup, t'es obligé d'avoir une page à côté de la page, voire deux. Voilà, ce qui est encore plus, plus improbable. Ouais, ouais, bien sûr.
Exactement. Après, on a un très chouette succès d'Steam. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup de retours très positifs sur ces jeux. Par contre, commercialement, c'est pas terrible. C'est vrai qu'ils ont un peu de mal.
C'est quoi votre réseau de distribution, du coup, pour
on
ça
On est chez BlackRock.
Ouais, mais du coup, c'est bien les boutiques de jeux qui sont.
Alors, on a essayé de lancer Cap Color en presse.
Ouais. Ouais. Ah, c'est un autre milieu.
Voilà. Bon, on a essayé.
Ouais, c'est vrai.
Une fois.
Ça n'a pas été très bien accueilli.
Ça s'est pas vu, en fait. Tous les exemplaires qu'on a mis ont presque tous été
rendus.
Détruits,
plus, c'est ça. Ouais, c'est ça le problème, plus en presse, quoi. C'est que c'est pas vendu ferme, donc ça revient.
Exactement.
Et puis
c'est payé encore, ça revient.
C'est pas vendu, ça revient pour payer, et du coup, on a rien gagné. Et voire pire, on a perdu de l'argent.
Voilà.
Ok.
Donc c'est déjà pas facile d'être sur un réseau de distribution. On se concentre. Mmh. Bah, nous, on est persuadés que le livre, c'est le support, en fait, mais c'est un jeu. Voilà. Ouais. Donc c'est plus logique d'essayer de travailler sur le réseau des boutiques de jeux. Donc on a repris notre copie là cette année, enfin pour la dernière version. On a fait une petite pochette pour que ce soit plus facile en boutique, que ce soit moins assimilé à un catalogue gratuit. Ouais.
C'est ça aussi le problème, parce que je comprends bien que dans les boutiques on a des magazines qui sont présents, mais en général c'est pas des magazines qui sont vendus. Hein.
Ouais, donc, exactement. Ouais. Et du coup c'était une vigilance pour les boutiquiers qui...
Ils avaient vraiment eu ce retour. Les gens, ils disaient, on met des présentoirs, et les gens, ils les prennent.
Les gens les prennent, tout à fait. Mais non seulement on a eu le retour, mais on l'a vu. C'est-à-dire que sur les salons, les gens, vous me parliez des bonbons où les gens se servent sur la table, ils font pareil avec les Cap Color ou les Cap Ten. Excusez-moi. Voilà. Donc là, d'avoir une pochette en carton, du coup, on a...
Ça place le produit dans quelque chose, dans un emballage au final,
qui est plus lisible, qui a une tranche qui permet d'être en rayonnage,
rangé avec ses jeux,
rangé, tout à fait.
Coup le premier donc Cap Color, donc ça c'est le premier opus qui sort sur les temples, c'est ça tu me disais, j'ai bien compris,
le premier numéro de Cap Color, c'était sur les pyramides, un système d'alignement. Et celui-ci, là, celui qui est dans la
en pochette.
Captain Cap.
Oui, d'accord,
La pochette s'appelle Captain Cap. Et en fait, dedans, il y a trois éléments. Il y a un petit livret avec du Cap Solo, où c'est le casse-tête, en fait. Il y a 10 niveaux de casse-tête à résoudre. Et puis, il y a un livret en A4 avec 7 îles de Cap Color, où la règle, c'est une majorité, oui. Okay. Il y a des masques. Et puis, dès qu'on a deux cases de sa couleur qui touchent le masque, on va colorier une petite pierre d'onyx. Et à la fin,
si
sur l'île,
plus,
on compte celui qui a le plus de pierres d'onyx et il a un bonus.
D'accord.
Et on a rajouté aussi une affiche, en fait, en format A2.
Ouais.
Qui est presque une petite aventure Cap Color, en fait, où là il va y avoir des portails, on va se téléporter et les îles vont s'ouvrir puis se fermer assez rapidement.
Tu me l'as montré juste avant et c'est vrai que ça va rallonger la durée de partie. On se retrouve sur une partie qui va durer facile 30-40 minutes
à
3-4 sur la table parce que. Du coup, ce qu'elle m'expliquait tout à l'heure, on commence sur une île et en fait, on va pouvoir s'étendre sur les autres îles. Et à chaque fois qu'on va rentrer et sortir d'une île, cette île va être condamnée, on pourra plus jouer dessus.
Mm-hmm.
Et en fait, il va avoir une grosse réflexion sur est-ce que je continue sur l'île sur laquelle je suis, est-ce que j'avance sur l'île suivante, parce que peut-être qu'elle va être bloquée un moment. Mm-hmm. Et je pense que là, il va avoir beaucoup de cerveaux qui vont chauffer autour de la table pour essayer d'aller faire plus de points que ses adversaires, sachant qu'il y a toujours ce système de majorité en plus. Donc là, on commence à être sur un truc... qui a l'air vraiment beaucoup plus touffu, quoi.
Ouais, c'est ça. D'accord.
Puis c'est une formule intéressante, l'affiche, parce qu'en fait, nous, on avait fait des petites affiches sur les salons pour montrer le principe, tout à fait. Et c'est vrai que ça attire pas mal. Il y a pas mal de cafés-jeux ou de ludothèques qui nous ont contactés, qui étaient intéressés.
Ouais.
Et on s'est dit, pourquoi pas, en fait, le proposer à tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a ce plaisir. En fait, du coup, comme c'est une affiche au milieu de la table, on a presque l'impression d'avoir un plateau de jeu géant.
Ok, Donc tout ça c'est la vie de Cap Color. Donc du coup nouveau packaging si je comprends bien
tout
pour que
fait.
Ce soit mieux adapté aux boutiques.
Ouais.
Du coup donc ça va être ça sort là, donc du coup c'est commercialisé en boutique dès aujourd'hui?
Non.
Donc là c'est une preview,
c'est,
on va dire.
Exactement.
Une exclusivité.
Ouais,
sur
c'est
Kian.
Un tout petit tirage pour avoir les retours, pour être sûr que voilà, c'est au mois de mars.
Mois de mars, c'est
j'espère,
prévu.
J'espère, ouais.
Ce sera vendu à combien
C'est à 12 euros.
12 euros.
Ouais.
Okay,
et on a calculé, ça fait plus ou moins 4 heures de jeu en tout. Entre le solo, la fiche et le
ouais,
Cap Color.
C'est un produit bien fourni pour 12 euros.
Ouais.
Hein, tout à fait.
Ok. Très bien.
Et en poids, non, mais en temps de jeu, oui.
En kilo, ouais, ouais. Ça fait cher du kilo, mais. Non, parce que maintenant, il y en a qui parlent en kilo. Hein. Il y avait, je sais pas si vous avez vu, il y avait Bad Bones, je crois, ils ont mis un prix en kilo sur la boîte. 16 euros du kilo.
Nous, en kilo, oui, on est très,
cher.
Très cher.
Ok, donc très bien. Du coup, la suite, c'est si ça marche ça, ou c'est quand même déjà dans les tuyaux, la suite, parce que là, c'est donc les masques d'Onyx, la suite, elle est déjà prête?
Non. On a un deuxième volume sur les masques d'Onyx qui est prêt.
D'accord, ok.
Mais le commerce, non, on est en train de le développer.
Okay.
Il y a eu un très long temps de développement entre le numéro 1 et puis finalement le numéro 2, même si maintenant on met plus de numéro parce qu'on a bien compris que c'était assez compliqué. Parce que justement, c'est une nouvelle mécanique et que une fois qu'on l'a testé, on a vu que ça marchait pas et donc il a fallu redévelopper, retester,
okay.
Comme tous les éditeurs de jeux en fait. Voilà. Donc elle nous a donné un peu de mal celle-ci, mais j'ai l'impression qu'on a une bonne formule.
Ok, très bien.
Voilà.
Alors à côté de ça, il y avait, tu nous l'as dit, dans Relinx, l'envie de développer aussi des ouvrages sur le jeu de société, je vais dire au sens large. L'autorat, le game design, et tout ça, c'en est où? Il y a eu un premier ouvrage qui est paru.
Tout à fait. Le auteur de jeux de société par Michel Lallet,
qui
est sorti en avant-première l'année dernière ici au Festival de Cannes. Et il y en a beaucoup d'autres en développement. Après, j'avoue que c'est très très long les livres. Tout est long, puis d'être toute seule ça aide pas à ce que les choses soient plus courtes. Comme une idiote, j'ai pas fait de liste, mais je vais essayer de vous le faire de tête.
Au moins quelques-uns. Hein.
Alors peut-être je vais dire quand même deux mots sur l'ouvrage de Michel Lallet, Michel, c'est l'un des co-auteurs d'Abalone. Il a aussi il est agent pour d'autres auteurs. Il a vraiment à cœur de défendre la spécificité en fait artistique des auteurs de jeux, la revendication culturelle et artistique vraiment. Il a plusieurs pratiques, il est à la fois parolier, il fait du théâtre, il écrit beaucoup et puis il crée des jeux. Il a été l'agent de Dominique Erard, qui fait aussi de la peinture, etc. Et vraiment ce qu'il explique dans le jeu c'est c'est parce qu'il veut faire passer une émotion et que en fait c'est par ce biais-là qu'il va réussir, que il n'y aurait pratiquement que ce biais-là pour faire passer cette émotion-là.
Si choisit le jeu et pas la peinture, c'est le médium adapté quoi.
Voilà.
Et donc cet ouvrage-là, il est paru. C'était quoi le réseau de distribution? C'était aussi les librairies du coup?
Alors BlackRock.
BlackRock. Là, il est encore disponible via BlackRock, pardon.
Tout à fait. Il est toujours disponible via BlackRock. Après, je le vends aussi en direct et notamment à des librairies indépendantes. Ouais, de plus en plus. Ça, c'est vrai que.
D'accord.
Voilà.
Et ça s'est vendu comment ça? C'est sorti l'année dernière, tu disais.
Ouais.
C'est un ouvrage qui se vend. C'est des petits tirages, j'imagine, parce qu'on est sur une niche quand même.
Ouais, on est sur une niche. Ouais.
Alors certes, le milieu du jeu se développe, mais après, pour que ça intéresse, ça reste une niche de personnes à l'intérieur de tous ces gens qui y jouent, qui s'intéressent vraiment à ce genre de domaine. Vous êtes sur des tirages de combien quand vous partez sur des trucs comme ça?
Michel, le auteur de jeux de société, on l'a tiré à 2000 exemplaires.
Ouais, quand même.
Et on a vendu un quart là en gros du tirage.
Un quart,
Il faut encore en un an. Donc effectivement, oui, c'est pas des chiffres qui font rêver. Hein.
C'est tout. Mais cela dit, on voit passer quelques Kickstarter en ce moment d'ouvrages en anglais, parce que en anglais c'est un peu plus fourni quand même comme domaine, tout ce qui est game design, enfin en tout cas la partie game design.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et du coup, il y a peut-être quelque chose. Et vous êtes pas dit peut-être écrire des ouvrages aussi en anglais ou pour avoir un public plus large.
Alors j'ai un gros handicap pour ça, c'est que je parle très mal l'anglais. Je lis très mal l'anglais et j'avoue qu'éditer un livre que j'aurais pas lu, enfin que je pourrais pas comprendre ou je serais pas sûre du sens ou de ça me frustre beaucoup.
Là tu parles dans le sens et c'est une question aussi mais donc c'est bien que tu y répondes dans le sens prendre un livre qui aurait été édité comme ça en anglais et le traduire en français.
On essaye de traduire des ouvrages qui existent mais
c'est dans les tuyaux mais après c'est du boulot quoi.
C'est très compliqué c'est des mois de négociations puis des fois on a l'impression que ça aboutit puis il se passe plus rien et voilà donc en fait pour l'instant il y a aucun ouvrage de game design qui soit en traduction chez Inx. Mais pour le coup on a quand même beaucoup de livres en préparation, alors en français exclusivement mais au niveau des essais il y a le livre d'Oriol Comasicoma. Enfin, les livres, parce que finalement, il aura mis tellement de temps qu'on va en faire deux.
Bah, écoute, ça fera d'une pierre deux coups, enfin, de d'un coup. Alors, en quoi ils consistent, ces essais?
Alors, Oriol, il est auteur de jeux, est responsable du festival de Granollers et de Barcelone.
Oui.
Et puis surtout, il est passionné par le jeu et un très grand lecteur. Et là, l'une des plus belles bibliothèques spécialisées sur le jeu.
Ah oui,
c'est assez impressionnant. Okay. Et il y a une dizaine d'années, peut-être une quinzaine maintenant, il avait édité un ouvrage en Espagne, donc en catalan et en espagnol et en castillan, sur le monde en jeu, en fait, où il reprenait, le sous-titre c'était les 100 jeux indispensables, où il reprenait l'histoire du jeu de société depuis le Go, la Wallée, les échecs, jusque il y a 10 ans, jusqu'aux années 2000, avec une sélection par auteur et par mécanique. Quelles sont les mécaniques à quel moment les mécaniques ont émergé et par quelle hauteur. Quand on a créé Inx, on lui a demandé à traduire cet ouvrage. Là, c'était plus facile, on connaissait l'auteur, donc on lui a demandé en direct. Et il a refusé, il a eu bien raison, je pense, en nous disant, ça fait 10 ans, vous avez vu ce qui s'est passé, il est impossible de juste traduire cet ouvrage, il faut le reprendre. Il faut retravailler dessus. Et donc, ça fait quelques années qu'il s'arrache les cheveux, qu'il a plus trop, du coup, à cause de moi. Et voilà, là, il a fini. Donc, on est passé sur un ouvrage qui va faire 600 pages, plus ou moins 200 ou 300 pages avant Sid Sackson, ou 200 ou 300 pages après Sid Sackson. On le mettra pas sur la couverture parce que c'est pas vendeur. On parlera plutôt du Monopoly, mais bon, voilà. En gros, c'est ce qui historiquement est pas totalement vrai, mais par rapport à l'histoire du jeu de société, ça pour le grand public, ça peut marcher avant le Monopoly, après. Donc, en gros, le premier tome on devrait pouvoir le présenter au moins à Paris et Ludique. On va faire une campagne Kickstarter, de financement participatif sur ces ouvrages. Et la seconde, on espère pour la fin de l'année où
on essaiera d'en reparler en tout cas à ce moment-là. On a des gens en tout cas dans l'équipe qui sont très intéressés par tout ça. et du coup, vous avez déjà des idées de combien vous visez pour le Kickstarter, tout ça?
Non,
pour l'instant, c'est encore vraiment à l'étude.
En fait, pour l'instant, pour être honnête, je n'ai pas lu ce texte. Est en train d'être traduit parce que Oriol l'a écrit en catalan.
C'est l'objectif, en tout cas.
C'est ça. Donc je dis 600 pages, mais il est loin d'être maquetté. On n'en sait pas. Donc les devis sont pas. Donc non.
Bien sûr.
Non. Mais ça va pas tarder. Je vais.
Bon, te mets pas la pression, ça va, tout va bien, détends-toi.
Mais voilà, c'est vrai que par rapport à Inx, c'est ce qu'on avait annoncé à la radio des jeux avec Adèle, et puis c'était notre volonté de départ, ouais, de pas trop faire appel au financement participatif.
Ouais.
Plus le temps passe et moins ça devient possible en fait. Donc voilà.
Après, il faut voir aussi par rapport au succès éventuel de Captain Cap, du coup, c'est comme ça que ça s'appelle. Je vous mélange un peu avec les noms, voilà. Et, mais effectivement, voilà. Après, ça peut. J'imagine que ça peut être aussi le genre de produit qui permet d'avoir de la trésorerie.
Mais bah, non, pour être honnête,
ça, ça oui, pas, on a bien compris. Alors, Captain,
on sent un demi-mot que non, on sent un demi-mot qu'effectivement ça, Evang pour l'instant se porte pas super bien.
Ah non, c'est dur. Ouais, non, voilà. Vraiment, c'est dur.
Ouais, okay.
Après, je c'est peut-être pas très malin de ma part de le dire, mais voilà, je.
Non, mais enfin, il faut aussi dire du coup à nos auditeurs que pour soutenir Ilinx, si on veut voir émerger des ouvrages qui vont pouvoir élever le monde du jeu, parce que ça passe aussi par là, non mais ça passe aussi par là quelque part, montrer que le jeu est un produit culturel, et ben peut-être s'appuyer sur d'autres objets qui sont déjà culturels, tels que le livre, qui est reconnu comme tel. Aujourd'hui, on voit aussi émerger à côté de ça beaucoup de choses hybrides, par exemple. Donc, il y a des gens qui viennent aux jeux de société par peut-être des jeux hybrides qui sont à moitié jeux vidéo, etc. Enfin, tout ça, c'est des canaux qui permettent de tu vois, d'élever, pour moi, je dis ça comme ça, c'est peut-être un peu pompeux, mais d'élever le jeu de société au rang de produit culturel. Et je pense que Ilinx est un acteur qui peut permettre aussi ça, hein. C'est voilà, c'est il y a des acteurs comme ça qui vont élever l'ensemble du marché. Je pense que vous en faites totalement partie, et si les gens veulent contribuer à ça, et qu'ils vous aident et qu'ils aillent acheter Captain Cap dans les boutiques.
Bien volontiers, il est disponible déjà sur notre site, hein. encore en boutique, mais
on mettra les liens qui vont bien et tout.
Notre objectif de départ, c'était pas d'élever le jeu, parce que
non mais moi, enfin c'est mon argument,
mais c'était vraiment de se dire que il y a une histoire, il y a des choses vraiment assez exceptionnelles au niveau même juste sociologique, enfin
quand, des choses hyper intéressantes, voilà. Sociologique, ouais. Niveau du design, niveau de voilà, c'est sociétal, c'est
et qu'il y a des acteurs aujourd'hui, par exemple dont Auriol fait partie, mais pas que, parce que j'ai aussi d'autres auteurs qui sont en train de travailler, qui ont une parole qui est précieuse et qu'il faut la capter, et c'est voilà,
la mettre à disposition du plus grand nombre,
qui est une marque dans l'histoire, parce que le travail d'Auriol, c'est aussi pour ça qu'il est si dur. C'est qu'il fait des recherches, mais alors c'est pas facile de faire des recherches quand il y a rien, en fait.
Justement, il y a rien, voilà. Donc c'est ça. Il faut bien, démarrer quelque chose. Il y a vraiment très très peu de choses. Enfin, nous, je le vois. Je vais parler de moi. Je suis désolé. C'est juste pour donner un exemple. On fait une chronique avec un compère donc de Proxy Joy qui s'appelle Sortons le grand jeu. Donc on met un jeu en avant qui a marqué l'histoire du jeu de société. Et on fait des recherches autour de tout ça, et c'est quand même assez difficile de trouver des éléments sur lesquels s'appuyer. Donc voilà, on attend ces ouvrages-là pour pouvoir repomper et faire de la paraphrase.
Sur toute la partie sur le deuxième livre, la partie sur le jeu de société contemporain.
Oui.
Là, Auriol a été interviewé. La plupart des auteurs encore en vie.
Parce qu'on est quand même, on a la chance d'être sur quelque chose d'encore assez jeune finalement, et donc a encore des auteurs en vie. Fort heureusement.
Exactement. Alors après, il y a beaucoup d'autres ouvrages. Je voudrais juste les citer qui sont en développement, parce que il y a Jean-Louis Roubira et Tom Lévesque qui travaillent sur l'histoire de Dixit de l'autre côté du miroir. Donc ça, c'est pareil, ça fait un bout de temps qu'on est dessus. Ce sera un ouvrage qui va raconter toute l'histoire de jeu, qui est quand même une aventure et éditoriale et humaine assez exceptionnelle. Dixit a eu 10 ans il y a peu de temps. Là on a Jean-Louis Roubira qui raconte comment il a eu l'idée, etc.
D'où
ça vient, pourquoi, comment, et puis après les rencontres. Et puis Tom a été interviewé, tous les acteurs, enfin la plupart des acteurs qui ont gravité autour de ce projet depuis le démarrage, évidemment tous les illustrateurs, mais aussi les directeurs artistiques, Régis, on a essayé de...
Il y a du monde qui est passé autour de Dixit.
Exactement, et puis c'est un sujet fabuleux, parce que on a aussi des recherches cliniques sur Dixit, des poèmes d'enfants, c'est Ça va être un ouvrage assez riche.
Ok, bah écoute, on attend ça avec plaisir.
Il y a Michel Boutin également qui est en train de travailler sur deux ouvrages pour Ilinx.
Ouais.
Le premier, c'est sur... alors, il n'y a pas de titre, ni pour l'un ni pour l'autre, mais je vais vous raconter en deux minutes le propos. Le premier, c'est sur les jeux à la belle époque. C'est vraiment les premières maisons d'édition de jeux, notamment en Angleterre, en Allemagne et en France. Mmh. Et c'est là aussi où il commence à y avoir des dépôts de jeux, les premiers dépôts. Mmh.
Dépôts Lego.
Et donc ça, c'est vraiment un travail d'archiviste et d'historien assez impressionnant, avec des anecdotes incroyables.
Mmh, clairement.
Par ailleurs, et ça c'est un gros morceau, ça sortira d'ici 2 ans je pense, une nouvelle classification des jeux avec des jeux physiques et cognitifs.
D'accord.
Avec Pierre Parlebas et Michel Boutin. Voilà.
Donc ça,
il y a de l'enjeu.
Beaucoup de choses dans les tuyaux quand même. Hein.
Ouais, tout à fait. Il y en a d'autres. Il y a une BD. Julien M qui fait des strips sur
Ludovox.
Donc voilà, l'idée c'était d'en faire une vraie BD physique. D'accord, parce que c'est très sympa. C'est pareil. Il y a quelque chose d'assez cohérent, moi je trouve, si nos ouvrages sont très différents, je trouve ça très bien, ce côté à la fois humoristique et même sur le côté sociologique, en fait il a un regard
tout à fait juste,
hein.
Notre milieu autocritique, on va dire, et autoparodique,
et puis c'est, je pense que c'est aussi pas mal comme ça qu'on peut être vu.
C'est une façon aussi de montrer la maison d'édition et que les gens puissent la suivre. Merci beaucoup Natacha d'avoir pris un peu de ton temps pour venir nous parler de tout ça, de tous ces projets. Et encore une fois, on encourage vraiment les gens à suivre, en particulier Captain Cap, le prochain à arriver.
Chère auditrice, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee pour nous soutenir. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.